Chers écrivains, chers lecteurs, nous sommes heureux de vous voir si nombreux pour accompagner, honorer, écouter les écrivains qui ont été choisis comme bénéficiaires du prix de l'Office fédéral de la culture. Et nous saluons la présence de M. Dominique Müller, qui est à l'origine de ces prix. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans la Maison de Rousseau et de la littérature, qui a fait de son objet principal la littérature dans tous ses états, qu'elle soit, comme aujourd'hui, consécration et fête, qu'elle soit apprentissage des formes, doutes, interrogations. C'est toutes ces questions que posent l'écriture, la lecture, la discussion et les débats que nous entendons promouvoir ici, dans cette maison. Nous sommes donc très heureux de pouvoir être un relais entre les prix fédéraux et Genève. Par ailleurs, tous les écrivains qui sont là ce soir, ceux qui sont là pour écouter, ceux qui sont là pour parler, ont quelque chose à voir avec Genève. Soit une halte, soit un point de départ, soit un point d'aboutissement, soit un rêve improbable ou probable. Et Genève est aussi très heureuse de pouvoir saluer des écrivains qui ont une grande importance pour la région, pour la Suisse, pour l'ensemble de toute la littérature et de ses voies majeures. Je vous remercie d'être venus si nombreux et je vous souhaite une bonne soirée. Je donne la parole à Isabelle Ruff, qui est la modératrice de la soirée.
Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue et une belle soirée dans cette maison de la littérature et de Rousseau, et de vous dire mon plaisir de recevoir ce soir ces trois auteurs. Et je salue au passage les éditeurs en français des auteurs qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Ça va être quelque chose d'un peu compliqué, mais très passionnant, puisque nous avons deux couples auteurs-traducteurs et une dame qui n'écrit qu'en français, qui écrit en français, et donc qui sera toute seule à nous lire. Donc j'ai pensé que le mieux, ce serait que vous entendiez d'abord des passages des trois auteurs, sans vraiment d'interruption. Je vous présenterai à chaque fois brièvement le livre dont il est question, le livre qui a été primé. Et puis, c'est à la fin que nous discuterons et nous essayerons alors tous ensemble de tirer un fil entre leurs trois démarches, qui sont très différentes, mais qui ont aussi, je pense, des lieux communs. Donc, trois auteurs, Arnaud Kamenisch, Catherine Savonoff, Mathias Tschöke. Trois livres que je vais maintenant vous présenter l'un après l'autre, pour ne pas faire trop de paroles d'un coup. Le premier que vous allez entendre, c'est Arnaud Kamenisch. Peut-être avez-vous lu, il y a quelques années, le premier livre qui avait été traduit. C'était une vraie performance, c'était même une première. Est-ce que vous m'entendez bien sans micro ?
Non.
Ah non. Bon. Ça va être un peu difficile. Moi, je prends volontiers un micro, mais après, il ne faudra qu'on ne fasse pas. Il marche ? Vous m'entendez comme ça ? C'est mieux ? Donc, je répète, nous allons entendre les lectures des auteurs, deux lectures bilingues, une lecture en français seulement, et puis ensuite, nous passerons à la discussion. Alors, nous, si c'est nécessaire, nous passerons les micros. Voilà, donc, le premier auteur que vous allez entendre ce soir, Arnaud Kamenisch, son premier livre traduit aux éditions d'en bas, c'était Cesner. C'était quelque chose de très particulier dans l'édition, puisque c'était une édition trilingue. Une édition, un côté le texte en allemand, de l'autre côté le texte en romanche, mais toutes les deux langues, avec des circulations d'autres, des bribes d'autres langues, de suisse allemande, enfin, une élaboration linguistique très complexe, et la version française de l'autre côté, par Camille Lucher. Ça, c'était Cesner. C'était une sorte de d'Estive, peut-être quelques, certains l'ont lu, c'était un été sur un alpage. Hein. Ce sont souvent les textes d'Arnaud Caminich tournent autour de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. D'ailleurs, il pourrait venir ici. Arnaud et Camille, je voulais me rejoindre.
Oui.
Voilà, donc Arnaud Caminich, Camille Duchère. Le deuxième texte que vous avez pu lire, c'est un court texte qui se passe, ce sont des scènes de village, dans les Grisons, village d'Arnaud. Aussi, avec cette circulation linguistique que Camille Luchère s'est attachée à rendre. Et puis, le dernier, celui qui a reçu le prix, s'intitule, je ne sais pas si je le prononce juste, Ustrinkata. C'est un nom qui sonne, pour moi, qui sonnait très exotique, que ça pouvait être un lieu, une personne, quelque chose de très lointain. En lisant le livre, j'ai découvert ce que ça voulait dire, mais on va laisser à Arnaud, je crois, de nous donner la bonne explication. Donc, c'est de ce livre-là que vous allez entendre quelques extraits, un court extrait traduit par Camille, mais le livre est en cours de traduction, et ensuite, ils vous liront des extraits de Derrière la gare. Bon, Arnaud, est-ce qu'on peut commencer par l'explication des titres ?
Oui. Ah. Bonsoir. C'est un plaisir d'être ici. Le titre, c'est Ustrinkata. C'était très bien, je crois. Déjà, Ustrinkata est un événement. C'est la dernière soirée dans un bistrot avant que le bistrot termine pour siempre. Oui, c'est un livre sur une existence qui se termine. Et peut-être encore un petit détail. Dans le titre, il y a le mot Ustria, Ustrinkata, Osteria, le mot romanche pour bistrot.
Donc, c'est pas difficile. Hein?
Aiguisez vos oreilles, vous aurez de toutes sortes de langues en écoutant les passages, que ce soit derrière la gare, que ce soit Ustrinkata, tout est suspect de polysémie et de polyglossie. Camille, est-ce que vous avez pensé à un titre pour Ustrinkata?
Non. Enfin, oui, bien sûr, j'y ai beaucoup pensé. Il n'y a encore rien de fixé. Arnaud proposait...
On dispute.
On discute. On discute beaucoup.
Micro.
Pardon. On discute donc du titre. Tu proposais le dernier.
Je sais plus.
La dernière tournée, le dernier vers. Ustrinkata, c'est aussi Ustrinke. Austrinken, tout boire. Quelqu'un me proposait jusqu'à la lie. Je trouve que c'est très sombre. voilà, donc effectivement, on spécule, on discute. On verra.
Allez, un dernier pour la route et on y va.
Bon, on y va. Merci.
Alors, il nous faut deux micros, donc. On en a qu'un.
Non,
pas
vrai.
Vous restez debout, ça vous va?
Oui, on reste debout. C'est toujours le même avec le micro. Voilà. Oui, je commence avec Ustrinkata. Mais il n'y a pas beaucoup de passages qui sont traduits en français. Pour ça, on lit encore de derrière la gare après. Einmal läutete es in der Nacht an der Türe, sagt die Tante. Stell dir den Schrecken vor, den ich mir einfing. Ich getraute mich kaum aufzumachen. Man weiß halt nie, bei all den Schuften heutzutage. Da merkte ich, dass die Großmutter fort war. Was blieb mir denn übrig? So machte ich halt auf und da stand die Großmutter vor der Haustüre mit einer Bratpfanne in der Hand und sagte, gelobt sei Jesus Christus und mach dein Kreuz mit der Pfanne. Nur nicht den Namen sagen, sagte Louise. Auf die Seite gehen und sie machen lassen. Schlafwanderer sind wie Katzen. Die finden immer zurück. Spätestens nach 3 Tagen sind sie wieder da. Ce petit passage pour faire le test. Normalement, c'est un passage bien drôle, je crois. Pour voir combien de personnes qui parlent ici dedans le monde. Il y avait quelques-uns, non? Pas beaucoup. Ok, je vais lire un passage qui est traduit en français. Il parle sur l'amour. Et voilà. C'est parfait parce que sur l'amour, je lis que le jeudi et le lundi. Wie frisch halten? Das ist die Kardinalfrage, sagte Otto. Ja, sagte Sylvie, ein bisschen Sorge tragen halt. Alles eine Frage der Haltung. Dann stürzen sie einem noch nicht ins Unglück. Eine Aufmerksamkeit manchmal vielleicht, werde nicht zu viel verlangt, sagt die Tante. Aber davon verstehen solche, die die Büchse Ravioli mit der großen Achse auftun, wohl nicht wirklich viel. Jetzt aber, als ob wir auf den Kopf gefallen wären, sagte Louise, zum Geburtstag eine Hirschzahnkette und der Braten ist gekocht. Ach was, sagte Otto, ich habe der Friederike zum Geburtstag, gerade bevor sie einfach so gestorben ist im Herbst, einen Trog Geranien geschenkt. Da wird sie sich sicher sehr darüber gefreut haben, sagte Silvia. Mir hat der Bier daraus bezahlt schon mal einen Korb mit exotischen Früchten aus Plastik geschenkt. Vielleicht ist es doch besser, wenn du wieder gehst, habe ich gesagt, und nimm deinen Fresskorb doch gleich wieder mit. Mir schenkte Leonardo, sagt die Tante, der aus Livigno, der hier 2 Sommer lang gearbeitete, einen Langlaufdress zum 1. August, einen roten, einer dieser Rennen mit Reißverschluss, frag mich nicht, wozu. Dann lieber noch eine Poesie d'amour von John B. Blumen, sagte Alexi und lächelt. Ein anderer, ein Waldarbeiter aus Camisciola, sagt die Tante, schenkte mir einen Föhn, einen grünen. Der Werner wollte mir eine Wohnwand schenken, sagte Silvia, eine dunkle wie die Nacht, oh je. Ob er diese doch nicht lieber wieder seiner Mutter zurückbringen wolle, habe ich ihn gefragt. Mit dem Teppichklopfer hätte ich dem gegeben. Von Zeit zu Zeit einen Hirsch nach Hause bringen und auf den Küchentisch abstellen, da braucht es keine Worte, sagte Luis, das ist wohl Liebe genug.
C'est la question cardinale, dit Lotto. Oui, dit la Sylvia, suffit de se soucier un brin, quoi. Tout est une question d'attitude. Comme ça, personne ne va te précipiter dans le malheur. Une petite attention à l'occasion, peut-être, ce serait pas trop demandé, dit la tata. Mais ça, ceux qui ouvrent les boîtes de ravioli avec leurs grosses haches, ils comprennent, ma foi, pas grand-chose. Morbleu, comme si on était tombé avec la dernière pluie, dit Louis. Pour son anniversaire, une lampe serre en collier, et c'est tout cuit. Va donc, dit Lotto. Pour l'anniversaire de la Friederike, avant qu'elle meure, juste comme ça, à l'automne, je lui avais offert un pot de géranium. Eh ben ça, c'est sûr que ça a dû lui faire sacrément plaisir, dit la Sylvia. Et elle verse une rasade de schnapps dans son café arrosé. Moi, le pideur de Poutsatache m'a offert une fois une corbeille de fruits exotiques en plastique. Il vaut peut-être mieux que tu repartes finalement, j'ai dit. Et remballe ton panier garni direct avec toi. Elle allume une sélecte. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, une fois, j'ai reçu du Leonardo, dit la tata, celui de Livigno, qui a travaillé 2 étés ici. Une combinaison de ski de fond pour le 1er août. Une rouge, une de ces toutes serrées avec la fermeture éclair. Me demande pas pourquoi. Je préférerais encore une poésie à l'amour du Giambi. Des fleurs, dit l'Alexis, et il sourit. Et un autre, un garde forestier de Camicholas, dit la tata. Il m'a offert un feun vert. Le Werner voulait m'offrir un meuble télé complet, dit la Sylvia, sombre comme la nuit. Oh yé, est-ce qu'il voudrait pas plutôt le rapporter droit chez sa maman, j'ai demandé. Elle finit son café arrosé. J'en prendrai encore un, dit-elle. Ah, je lui en aurais foutu avec le tape-tapis. La Friederike, je lui ai allumé un feu, dit Lotto. Alors elle a su. Ouais, de temps en temps rapporter un cerf à la maison et le déposer sur la table de la cuisine, Il n'y a pas besoin de mots, dit Louise, c'est bien assez d'amour.
Oui, peut-être on connaît tous hein, cette situation, on est invité à manger et on n'a pas envie d'y aller. Et moi j'étais une fois et à la fin je suis allé, très honnête. Et bon, c'était une belle soirée à la fin et sur la table j'ai vu un dictionnaire. J'ai fait dans les dictionnaires, c'était un dictionnaire romanche-allemand, j'ai trouvé un mot qui disait canals. Canales, comment est-ce qu'on peut dire?
Canales. Canales.
Il peut tout faire.
Oui, à tout faire. Un qui peut faire tout. Et après, à côté était écrit Canales, ehemaliger Schreinermeister aus Briegels, der von sich behauptete, er könne jede Arbeit machen. Also ein Schreiner. Menuisier, qui était de Briegels, moi je suis de cette part des Grisons, Briegels, qui disait de soi qu'il pouvait faire tout, il can alles. Et j'ai pensé, oui, il sait presque faire tout, il a... Oui, il est arrivé jusqu'au dictionnaire. Et j'ai pensé, bon, pour ce livre... Je ne cite que Canales, bien aussi dans mon livre. Et je lis ce petit passage que j'ai écrit sur le Canales. Einige haben halt mehr Talent als andere, sagte Otto. So ist das. Demokratisch wird das halt nicht verteilt. Also schon verrückt, ungerecht, verteilt er dort oben, gell? Der Herr, auch bei den Talenten, nicht nur bei den Schönheiten, sagte Otto. Im Briegels gab es den Canales. Ah, der Schreinermeister, sagte Tante. Am Sonntagnachmittag kam er jeweils vorbei auf ein, zwei Bier oder drei. Ui, hatte der ein großes Maulwerk mitten im Gesicht, sagte Alexi. Ein Plappri war das, nicht mal ein paar aufs Maul halt bei dem, sagte Luis. Nicht mal dann schwieg er, konntest den nicht abstellen, wie ein Nachrichtensprecher. Der hörte nicht auf, nicht zu verstehen, dass dem nicht das Herz verklopfte. Ein anderer hätte schon längst in seine Herzbaracke gehabt und ein Stotterwerk machte diese, du meine Güte. Der Canales, sagte Otto, und er sagte, er könne jede Arbeit machen, und den ohne Rot anzulaufen, sagte der Nas. Ja, der stand uns all die Jahre vor der Sonne. Der Canales sagte immer, ich kann alles. Ja, im Briegels hat der Allmächtige alles auf eine Karte gesetzt, sagte Otto. Da ist er gerade selber schuld, der liebe Gott, dass er jetzt den Canales in der Eingangshalle stottern stehen hat. Der ihm den ganzen Tag lang aufzählt, was er kann. Da wird Gott selber sich wohl früher oder später eingestellen müssen, dass er es bei dem nicht ganz so gut hingekriegt hat. Wie man in den Wald ruft, sagt die Tante und grinst. Ja, auch Gott macht Fehler. Und gestorben ist er trotzdem, sagte Otto, einen Strich gezogen. Einen Strich gezogen hat der liebe Gott, als er es nicht mehr ertrug, vom Blitz getroffen, der Canales. Fertig, Schluss. Irgendwo steht auch der Satz im Buch, ja, man stirbt halt so, wie man gelebt hat. Also der Canales ist vom Blitz getroffen worden. Ich schrecke heute noch manchmal auf am Sonntag, wenn die Türe aufgeht. Der Canales könnte plötzlich zur Türe reinkommen, sagt die Tante. Also Gadales kann er nicht. Von den Toten auferstehen wird er wohl nicht können, sagt die Silvia. Das wäre denn grad brav verrückt. Ja, ein Talentierter war da, sagte Otto und die anderen, wer halt nicht so viel Segnung mit auf dem Weg bekommen hat, halt nachhelfen ein bisschen, einen Stein aus der Walfrisal in der Hosentasche mittragen, das hilft schon mal, oder ein bisschen weißer Senf kauen und zwischen Backe und Zähne, gegen das kalte Hirn, das frischt den Dachstock auf, gell, Luis? Oder ein Fläschchen mit Steinbocksaft in der Chopentasche, das gibt harte Schädel. Oder eine neue Frisur, sagte Alexi, und man geht ganz anders durch die Welt. Teuer, hast du mindestens nicht verlangt für deine Frisuren, das muss man schon sagen, sagte Otto. Aber dafür trägt das halbe Dorf einen Hut und den Rest ein Kopftuch. Mögen Sie noch? Ja. Mögen Sie. Okay. einige Passagen aus Derrière la Gare. Protokoll. Sag mein Bruder, bis wir das ganze Dorf sind, habe 25 Häuser gezählt. 8 Heustalls, eine Autogarage, eine TÜV-Garage, den Bahnhof mit der Post. 2 Brunnen mit Jahreszahl, die Halle und die Bude vom Großvater. 1 Telefonkabine, den Kiosk der Mähne und 4 Abfallcontainers. Als wir angelangt sind am anderen Dorfrand, gehen wir nochmals durchs Dorf und zählen die Leute, die im Dorf wohnen. Nicht zählen dürfen die Marionne vom Dorfladen, die nicht im Dorf wohnt. Und auch nicht in Todi Meissen, der am Bahnhofschalter steht, aber auch nicht im Dorf wohnt. Es hat 41 oder 42 Einwohner. Wir wissen nicht, ob der Tini Blot ein Mensch ist oder 2.
Inventoriage, dit mon frère. Jusqu'au bout du village, nous comptons 25 maisons, 8 granges à foin, un garage d'auto, un garage de moto, la gare avec la poste, 2 fontaines avec la date, la réserve de bois et la restellerie du nono, une cabinade à téléphone, le kiosque de la Mena et 4 bennes à ordures. Une fois arrivé de l'autre côté du village, on repasse dans l'autre sens et on compte les gens qui habitent dans le village. On a le droit de compter ni la Mariona de l'épicerie qui n'habite pas dans le village, ni le Tony Meissen qui travaille au guichet de la gare mais qui n'habite pas non plus dans le village. Il y a 41 ou 42 habitants. On ne sait pas si le Tini tout nu est 1 ou 2 personnes.
Die Marina ist aus Italien. Sie wohnt über uns. Der Anselmo ist der Mann der Marina. Er ist Backerfahrer und wohnt auch über uns. Im Treppenhaus riecht es stark, wenn die Marina kocht. Mein Bruder sagt, sie hat schlechte Pfannen. Dem Anselmo wachsen Haare aus den Ohren, die Haare sind schwarz. Ich frage den Anselmo, ob er denn auch was höre mit so vielen Haaren in den Ohren. Credino, maledetto, sagt er, und ich springe davon. Wenn der Anselmo das sagt, muss man davon springen. Die Marine sagt nicht solche Sachen, die wir nicht verstehen. Vor der Marine müssen wir nicht davon springen. Die Marine sagt, Mamma mia, das verstehen wir. Sie sagt das zum Beispiel, wenn mein Bruder in der Stube auf dem Boden liegt mit der Stubenlampe in der Hand, weil er auf den Tisch gestiegen ist und sich an der Lampe festgehalten hat, um sich durch die Stube zu schwingen. Die Mutter hält die Hände vor den Mund und sagt, per l'amour de Deu. Sie ruft die Marina und die Marina hält die Hände vor den Mund und sagt, Mamma mia.
La Marina vient d'Italie. Elle habite au-dessus de chez nous. L'Anselmo est le mari de la Marina. Il est conducteur de pelle mécanique et il habite aussi au-dessus de chez nous. Ça sent fort dans les escaliers quand la Marina fait la cuisine. Elle a des mauvaises casseroles, dit mon frère. Des poils poussent dans les oreilles de l'Anselmo. Les poils sont noirs. Je demande à l'Anselmo si avec autant de poils dans les oreilles, il peut encore entendre quelque chose. Credino maldito, il dit, et moi je me sauve. Quand l'Anselmo parle comme ça, il faut se sauver. La Marina ne dit pas des choses comme ça qu'on ne comprend pas. La Marina dit « Mamma mia ». Il n'a pas besoin de se sauver avec la Marina. Elle le dit par exemple quand mon frère se retrouve par terre dans le salon avec la lampa du salon dans la main parce qu'il est monté sur la table et qu'il s'est accroché à la lampa pour se balancer à travers la pièce. La maman met les mains devant sa bouche et elle dit « Per l'amour d'adieu ». Elle appelle la Marina et la Marina met les mains devant sa bouche et dit « Mamma mia ».
Quelque chose qui est très important, grisant, est le « jeu oyas ». C'est presque une question de vie et mort. Venditata, la tata et la grand-mère, on dit tata au sous-sylvain. Wenn die Tante jast, bewegt sie ihre Zähne hin und her. Das macht Krüschs. Das lenkt die anderen Jastspieler ab. Darum ist die Tante so gut im Jassen. Heute bewegt die Tante ihre Zähne nicht hin und her. Sie flucht, odieus, kartes, miserables. Also schon eine Miserie. Putz, sagt die Tante, geht rein zu von Sinn und holt mir meine Zähne. Kartes, miserables, Koffertori. Die Zähne der Tata liegen bei der Fonsina auf dem Küchentisch. Verjaibusche Tup, tu nicht so blöd, sagt die Fonsina. Einer muss die Zähne ja wohl nehmen. Die Fonsina hebt die Augenbrauen und holt einen Fünflieber, legt ihn auf den Daumenrücken und wirft die Münze hoch. Die Münze dreht sich in der Luft wie ein Zeitlupe. Bitte, bitte, lieber Gott, ich zünde eine Kerze an für die armen Seelen.
Quand la nonna joue au yas, elle fait aller ses dents dans sa bouche. Ça fait du boucan. Ça déconcentre les autres joueurs de yas. C'est pour ça que la nonna est si forte au yas. Aujourd'hui, la nonna ne fait pas bouger ses dents. Elle peste. Oh, Dios, cartas miserablas, non mais vraiment la miseria. Wops, dit la nonna. Allez vite chez la Fonsina me chercher mes dents. Cartas miserablas, boni idiot. Les dents de la nonna sont sur la table de la cuisine chez la Fonsina. Fajay Bukashitoup, faites pas les bobets, dit la Fonsina. Il y en a bien un de vous deux qui doit les prendre, ces dents. La Fonsina hausse les sourcils, les sort une pièce d'une thune, la pose sur son pouce et lance la pièce. La pièce tournoie dans les airs au ralenti. S'il vous plaît, petit Jésus, j'allumerai un cierge pour les âmes en peine.
Un cerveau, un cierge, je sens presque.
Et le dernier pour terminer. Die Frau Murt fährt einen VW Käfer. Ihr VW Käfer ist weiß und sie hat eine graue Durwelle. Die hat ihr der Alexi, der Dorfkoiffeur, gemacht mit seiner Hube. Die Frau Murt redet nicht romanisch, nur deutsch. Romanisch muss sie auch nicht können. Sie redet fast nie und so kann sie das, was sie sagt, auch auf deutsch sagen. Das versteht man im Dorf auch. Die Frau Murt hat Bienen. Sie hat ihre Bienen am Dorfrand. Jeden Tag, Punkt, 11:45 fährt die Frau Murt mit ihrem VW Käfer durchs Dorf. Sie fährt schnell und wenn sie kommt, müssen wir schauen, dass wir auf die Seite stehen. Die Frau Murt ist älter als die Tata. Sie sieht nicht mehr so gut. Der Sitz von ihrem VW Käfer hat keine Lehne, darum beugt sie sich nach vorne beim Fahren. Da hilft auch die dicke Brille nicht, sagt die Tante. Also schaut, dass sie nicht gerade in der Straße steht, wenn er sie kommen hört. Man hört sie schon von Weitem kommen. Ihr VW Käfer ist so laut, sagt der Mechaniker, weil die Frau Murt nur im ersten Gang fährt. Punkt 11:45 stehen die Leute im Dorf ab von der Straße, weil die Frau Murt wie eine Rakete durchs Dorf fährt, um zu ihren Bienen zu kommen. Punkt 12:45 stehen die Leute wieder auf die Seite. Dann fährt die Frau Murt in die andere Richtung durchs Dorf.
Madame Wood a une VW coccinelle blanche. Et elle a une permanente grise, c'est l'Alexis qui la lui a faite avec son casque. Madame Wood ne parle pas romanche, seulement l'allemand. De toute façon, elle n'a pas besoin de savoir parler romanche, elle ne parle presque jamais. Alors, ce qu'elle dit, elle peut très bien le dire en allemand, on comprend même dans le village. Madame Wood a des abeilles. Ces abeilles sont à la sortie du village. Tous les jours, à 12:45, pile, Madame Wood traverse le village dans sa VW coccinelle. Elle roule vite et quand elle passe, on doit se gaffer de bien se tenir sur le côté. Madame Wood est plus vieille que la nonna. Elle ne voit plus très bien. Le siège de sa VW coccinelle n'a plus de dossier. C'est pour ça qu'elle se penche en avant en conduisant. Les grosses lunettes n'y changent rien, dit la tata. Alors gaffez-vous de ne pas être au milieu de la route quand vous l'entendez arriver. On l'entend déjà arriver de loin. Si sa VW coccinelle fait autant de boucans, dit le mécano, c'est que Madame Wood ne roule qu'en première. À 12:15, pile, les gens du village se mettent au bord de la route parce que Madame Wood roule comme une fusée à travers le village pour aller voir ses abeilles. À 1:15, pile, les gens sont de nouveau au bord de la route. Madame Wood traverse le village dans l'autre sens.
Merci beaucoup Camille et Arnaud pour cette lecture. On reviendra sans doute tout à l'heure sur les questions de traduction, sur le mélange des langues, sur la circulation des différents accents et sur la façon de lire aussi. Ils ont disparu, je pense. On les retrouvera tout à l'heure. Alors je m'adresse maintenant à Catherine Safanoff, si vous voulez bien venir jusque-là. Bon, Catherine Safanoff, je ne vais peut-être pas vous la présenter, vous la connaissez, elle fait partie du paysage littéraire genevois. Et nous lui devons de très nombreux livres depuis plusieurs décennies. Et particulièrement, je citerai les trois derniers, le Au nord du capitaine, Autour de ma mère, et Le mineur et le canari, dont il sera question ce soir. Ce sont des livres dans lesquels Catherine... Vous voulez pas vous asseoir? Vous voulez lire debout?
Oui, oui, ça va.
Ça va? Alors, je vais lui rendre le micro tout de suite. Donc, deux mots sur Le mineur et le canari. Catherine va peut-être nous en expliquer le titre. Ou peut-être l'avez-vous déjà deviné, et surtout si vous avez lu le livre. Les livres de Catherine fonctionnent par un montage très précis avec des éléments de sa biographie, choisis, retravaillés, reliés par association, et ça particulièrement dans Le mineur et le canari, puisqu'il s'agit d'une cure psychanalytique, en grande partie, puisque la narratrice va voir en urgence un médecin dans une consultation, et que c'est évidemment ce travail de l'analyse fait ressurgir toutes sortes d'éléments qui se tissent dans ce livre magnifique, Le mineur et le canari. On en dira plus tout à l'heure, maintenant je laisse la parole à Catherine. Je veux peut-être juste un mot sur le titre. Ou est-ce que ça vient déjà dans la lecture?
Non, je ne viens pas dans la lecture, dites-le alors. Vous voulez l'expliquer, le titre?
Non, c'est à vous. Elle est là, bien.
D'accord.
Bon, je le fais volontiers, mais...
Je suis plus petite ou plus grande que...
Je ne ferais pas faire six.
Voilà. Bon, c'est très gentil de m'avoir mis juste après Arnaud. Mais lire après lui, ça ne va pas du... Qu'est-ce qu'il dirait?
C'est un autre geste.
De la tarta.
Lui, c'est une espèce de liturgie.
Ouais, on passe à un autre mais je suis un peu embêtée parce que... Bon, parce que ma lecture est très très courte. Je vais expliquer pourquoi elle est trop courte. Donc je vais mettre une rallonge, je vais improviser. C'est pas du tout mon fait d'improviser. Voilà, mon éditrice Marise Pietri, qui n'est pas là, a toujours repéré dans mes livres le côté comique, ou le côté cocasse, ou la drôlerie, que moi je ne vois pas du tout. parce que je trouve que ce que j'écris est au fond dramatique et même plus. Alors je ne sais pas si j'essaie de dissimuler le côté tragique ou de... Enfin, contre tout ça, j'ai choisi un passage un peu plat, un peu lourd, un peu romantique et très triste. Et j'aimerais expliquer comment ça se fait que je l'ai choisi. Vous reconnaissez cette carte, Isabelle Reuss?
Oui, c'est ça. Ouais.
J'ai reçu cette carte en même temps que le livre de M. Kamenich. Pourquoi est-ce qu'il est allé se cacher?
Mais oui, je ne sais pas pourquoi ils sont partis.
Ils doivent boire un coup de gnôle. Voilà, elle m'a envoyé derrière la carte. Et c'est fantastique parce que j'ai bien entendu des extraits. Je l'ai lu hier et avant-hier. On ne reconnaît pas du tout le livre lu avec les yeux.
Quand
il lit. Et donc, moi, je ne suis pas du tout une orale. Je ne comprends jamais rien quand on lit. Mais lui, tout à l'heure, j'ai vraiment compris. C'était bien.
C'était vertement, non? Non.
Bon, alors, bon, je demande à Isabelle Ruff au téléphone, s'il vous plaît, moi ce livre, franchement, ça fait un an que je l'ai fini, et voulez-vous me suggérer quelques passages? Isabelle me suggère 12 passages. 1, 4, 8, 20, 21, c'est le numéro des fragments au chapitre. 32, 33, 34, 35, 40, 65, 81. Autant dire que ça ne me facilite pas la tâche. Et je décide.
Je m'expliquerai.
Quand même, cette lecture par autrui me fait remarquer un passage que je n'ai plus jamais remarqué après l'avoir écrit. Un seul, qui se détache des autres, justement celui qui est triste et ennuyeux. mais, qui résume pas mal mon projet mettons même mon entier projet d'écriture. Alors, c'est le numéro 65, peu importe pour vous, qui avait vous n'avez pas lu.
Comme les psaumes.
Et je le reprends un paragraphe en amont. Pourquoi est-ce qu'il est le résumé de ce que j'écris? Parce qu'il parle de voyage, de qu'est-ce qui nous fait partir en voyage, pourquoi on va ailleurs, et surtout comment on revient, et comment on écrit sur le fait de revenir, et qu'est-ce qui nous fait partir. Aussi dire que j'ai lu monsieur là, attentivement. Et sur les voyages, voilà, on en parlera plus tard. Donc, je précise encore ceci, que je suis une déplorable voyageuse, que pour venir ici, je vérifie 4 fois mes affaires, si j'ai tout, si je... Donc, pour moi, c'est un risque, le voyage. Une seule chose a pu, dans le passé, me faire sortir de chez moi, c'est quand on est amoureux de quelqu'un. Il y a une extrêmement belle page sur le fait d'être amoureux du voyage de monsieur Choquet. Et je crois que la prochaine fois que les auteurs organisent une lecture, et quand il y a 3 ou 4 personnes, ou 2 ou 3, ils devraient faire lire les livres des uns et des autres par les auteurs. Bon, alors, je m'y mets, j'ai bien rallongé mon court passage, et je rappelle à l'Assemblée les multiples sens du mot « transport ». Je ne sais pas si ça joue en allemand ou en romanche, ou en italien. Donc un petit bout juste avant le passage. Il est certain que je voulais aller seule à vol. Mon imminent voyage en Grèce me causait assez d'appréhension. Mon texte pour Roll, je l'avais écrit seule, j'en délivrerai seule la lecture. Sans accompagnateur, sans accompagnatrice. Et surtout, je comptais sur certaines récompenses qu'il ne tenait qu'à moi de m'octroyer. Elle était là, ma faute, aux yeux de Madame B, dans le ferme désir de jouir seule de ce moment. Le dernier train était à minuit. Je suis sortie de la belle demeure au bord du lac. La petite ville dormait. J'ai traversé un parc obscur, demandé le chemin de la gare à l'unique passant croisé. Il ne parlait pas le français et j'ai mimé une locomotive à vapeur. Une toute petite gare, un banc, une aubette. Le camarade du passant vu en chemin parlait dans son portable une langue inconnue, rapide, glissante, comme si on versait des pois secs dans un cornet. La nuit était très fraîche et obscure, silencieuse, sauf le grésillement perlé de cette étrange langue. Dans 10 jours, je partais en Grèce. Mais c'était ici, le lointain. À la dernière minute, une femme est arrivée et s'est assise à l'intérieur de l'abri vitré. Elle était rousse et la lumière blême a transfiguré l'abri en tableau d'Edward Hopper. C'était un train régional presque vide, dont la vitre vibrait malgré un petit carton plié à sa base. L'odeur, le bruit des rails, le sifflement des freins étaient comme ceux des trains de mon enfance. Voilà le passage de... page à peu près. Retour. Ben, je dois faire une parenthèse. C'est un gros clin d'œil à ma propre personne, parce que Retour est le titre de mon 2e livre publié et de la seule authentique fiction que j'ai écrite et qui m'a totalement guérie pour toujours d'écrire de la fiction. Donc, retour. Je suis de retour de Grèce depuis 10 jours. Le voyage est accompli, l'épreuve est passée, je suis de retour. Désormais, j'étais délivrée de tout voyage, je ne partirai jamais plus. Je me souviens combien, avant, je me réjouissais de regagner la vie ordinaire, la belle, tranquille vie ordinaire. La Grèce commence en juin 1961. Il y avait une fête au Jardin des Bastions. Une fille dansait sur une petite estrade au son d'une radiocassette. Une musique jamais entendue, une danse singulière. Elle était plutôt petite, concentrée dans sa danse, parfois les bras levés, les cheveux dans le visage, tournoyant lentement avec soudain un saut, comme le veut l'étrange Lansinon Zenbekiko. Katerina Angelaki prétend que j'invente cette rencontre. Il est certain qu'une fois que quelque chose est écrit, le fait réel est effacé. Katerina portait une jupe à volant en vichy bleu, une blouse à décolleté bateau, avait de grands yeux noirs, dramatiques, rieurs. Tant qu'elle dansait, je n'ai pas remarqué qu'elle boitait. Son infirmité métamorphosée par sa danse. J'ai été éblouie, fascinée. Je me suis approchée d'elle. Je ne savais rien de la Grèce. Nous avions 20 ans. Ainsi va le début de mon enchantement grec. Il me faut marquer quelque chose que je n'ai pas fini de comprendre. J'ai aimé Katerina Angelaki aussi à cause de son anomalie. Sa jambe et son bras gauche, plus court et tordu par la poliomyélite. Peut-être même que je l'ai aimé surtout pour sa façon d'arborer son défaut cruel comme une exceptionnelle valeur. Cette femme, plus qu'une sœur, plus qu'une mère, a été mon guide humain, ma passeuse. L'île d'Égine est devenue mon Orient, qu'en même temps je ressentais comme lieu d'origine. Katerina Angelaki, sa maison et son île, devaient entrer dans tout ce que j'ai écrit. L'angoisse qui a précédé mon voyage, j'ai cru qu'elle allait se dissiper. L'autobus vers le Pirée était plein, roulait vite, les mots grecs revenaient, l'odeur grecque était l'odeur grecque. Le bateau vers l'île, un autre, mais le même bateau de toujours. J'ai fait un long détour avant de prendre le chemin de la maison de Katerina. La nuit tombait, les rues étroites étaient pleines de monde. Je tirais ma valise à roulettes et j'avais l'impression d'être tout un cortège. Un cortège d'ombre, un cortège invisible, mais l'île saluait mon retour. Ce n'est que des mois plus tard que je comprendrai la raison de mon angoisse avant le départ. Si Katerina Angelaki était toujours là, et sa maison rouge sous le bouquet d'arbres, au bout du chemin crayeux, mon autre passeur manquait. Nectarios était mort. Je n'avais jamais réalisé pleinement le fait de sa mort. Quand Katerina m'en avait averti par téléphone, 4 ans auparavant, j'avais ressenti un choc sourd, comme si brusquement je pesais 10 fois mon poids, mais je n'avais pas éprouvé d'affliction normale. Nommable. La vie de cet homme avait été si tumultueuse, et mes sentiments pour lui, que l'annonce de sa mort pouvait être une erreur, et le fait lui-même un accident réversible. La perte, l'accablement, l'irréparable, c'est une fois dans l'île qu'ils me sont tombés dessus. Voilà de quoi j'avais tellement peur, de constater la réalité. Cette fois, Nectarios avait disparu pour de bon. L'île était déserte, silencieuse, et ma durable amitié pour Katerina ne suffisait pas à ranimer les enchantements, éteints comme s'était éteint le magicien. Inutile de chercher une seule âme dans l'île auprès de qui épancher mon chagrin. Bon débarras, avait-on dit et pensé du mort. Il n'aurait plus d'ennemis à fuir, ne ferait plus de mauvais coups, ne verrait plus les barques, ne devinerait plus le temps. Ne devinerait plus le temps de demain à la couleur du ciel, ne m'attendrait plus à l'arrivée du bateau, ne m'écrirait plus de lettres. J'ai marché seule par les chemins, j'ai loué une bicyclette, j'ai refait d'anciennes promenades. L'angoisse des semaines précédentes s'est changée en profonde mélancolie. Mon ami était mort, j'étais revenue dans l'île pour dire adieu. Et encore un paragraphe. Katerina Angelaki ne tolère pas l'affront de la tristesse sous son toit. Aussi, je me suis montrée gaie, retrouvant ma primitive relation avec la grande sœur, quand la petite fait tantôt son rayon, tantôt les sept nains. Craignant l'escalier, Katerina vit maintenant dans la cuisine. J'avais sa chambre pour moi. J'ai rempli un cahier de notes chaotiques. « Je monte écrire !» annonçais-je. « Bravo !» s'exclamait mon ami. Les soirées, nous regardions un interminable feuilleton télévisé turc sous-titré en grec. L'autre vacancière, Gisquet, une grande hollandaise, se joignait à nous, buvant bière après bière. Elle trouvait la série turque détestable et doublait les dialogues en néerlandais comique. On ne s'entendait plus. Heureux moment. Je n'ai jamais rouvert le cahier de notes. C'est encore vrai. Je revois, vers 4 heures, un grand T de soleil qui tombait d'entre les deux volets et partageait la salle en deux. Je me poussais à droite ou à gauche du grand T qui aveuglait la page. Je vous remercie.
Je remercie Catherine Safonoff d'avoir, ou pas d'avoir choisi les textes que je lui avais proposés.
Ah, oui.
Si, je lui ai... Si, il y était ?
Merci, celui-ci, il y est en plein.
En tout cas, c'est tout à fait significatif. J'ai eu le plaisir de relire son livre pour cette demande qu'elle m'avait faite. J'étais incapable de faire un choix. J'arrivais pas à choisir. Parce que dans ce livre, en fragments, tout s'enchaîne et forme un tout. Donc finalement, un peu au hasard, je dis ça, ça, ça et ça, mais ça aussi. Et pourquoi pas ça? Et du coup, elle ne vous a pas expliqué pourquoi le mineur et le canari. Mais peut-être que vous le savez, dans les mines autrefois, quand le coup de grisou menaçait, les mineurs se sont rendus compte que les oiseaux réagissaient beaucoup plus vite avec leurs petits poumons. Donc, tombaient ou mouraient quand le danger approchait. Donc, ils sauvaient la vie des mineurs. Voilà, le mineur et le canari. Il y a un très joli passage dans ce texte, dans le mineur et le canari, qui explique qui est le mineur, qui est le canari, qui est les deux. Donc, de tout ça, et surtout de comment on utilise sa biographie, les livres précédents, les livres à venir, pour faire œuvre, eh bien, ce sera la discussion commune que nous aurons avec les trois, et pour les trois, c'est vrai. Alors maintenant, c'est le moment d'inviter Mathias Choquet et Patricia Zürcher à venir faire la lecture. Alors Mathias Choquet, aussi, vous le connaissez à Genève. Il dit même que Genève est une ville où il est particulièrement bien reçu, en tout cas, c'est ce qu'il disait à un moment, s'il a écrit même, puisqu'il a été joué. Très souvent, ses pièces ont été jouées à la Comédie, aux Poches. Par ailleurs, ses livres en français sont publiés ici à Genève, aux éditions Zoé. Vous vous souvenez de Maurice à la Poule ? C'était en 2009, le prix Fémina. C'était cette magnifique expérience que, pour une fois, les éditeurs suisses étaient pris en considération par les prix parisiens. C'était Maurice à la Poule que Patricia avait traduit. Et puis... Ensuite, Mathias a publié d'autres livres en allemand, particulièrement un livre très spécial qui n'est pas encore traduit, qui est composé de messages qu'il a envoyés à un ami. Sa amie s'appelle Nils, Liebe Nils, donc le livre. Et c'est un livre de 700 pages où on a les messages que Mathias envoie à son ami. On n'a pas les réponses. Parfois on les devine, parfois on se demande ce qu'elles sont, parfois on se demande s'ils existent, et parfois on en est persuadé. Donc c'est un livre très particulier, mais qui n'est pas encore accessible en français. Puis il a publié, et c'était l'objet du prix, un livre qui porte le genre roman, ça aussi on pourra y revenir, qui s'appelle « Der Mann mit den zwei Augen, l'homme ». Au-dessus, avec les deux yeux.
Qui avait deux yeux.
Qui avait deux yeux. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore résolu. Qu'est-ce que c'est, Mathias, qu'un homme qui a deux yeux, qui aux deux yeux, c'est vous et moi.
Mais Bonsoir. C'est l'homme universel. C'est l'idée d'inventer un héros d'un livre qui peut être tout le monde et nul, personne. Et je trouve ça se comprend très vite dans le livre et on oublie tout vite le titre. On s'habitue, c'est l'homme avec les deux yeux, l'homme qui avait deux yeux, et on trouve que c'est très très juste pour cet homme, et très précis.
Donc, l'homme qui avait deux yeux, ou l'homme aux deux yeux, Patricia et Mathias vont en lire le passage qui a été traduit pour cette occasion, mais après vous lirez surtout, je crois, de Circulation. Hein?
Non.
Non. Non. Non, non. Ah, je croyais. Vous allez lire de quoi alors? Tout de l'homme?
Non, non, c'est juste, juste les premières pages.
Oui, on n'avait pas de problème. Elle a traduit 7 pages et on va lire ces 7 pages, le début.
Mais excellent. Donc, une première. Oui. Vous avez peut-être déjà lu le livre de voyage Circulation. J'ai cru que vous en liriez des extraits, mais c'est très bien, ça vous pouvez lire. Maintenant, on va découvrir les 7 premières pages de l'homme qui avait deux yeux. Vous lisez d'un coup cette page ou...
On va alterner. Oui. Et on ne lit pas forcément les mêmes passages.
Très bien. Qui commence?
Non, on m'a
fait... On va aller les deux au micro.
Très bien, alors je...
Non,
je
non me... c'est vraiment très
vous
facile.
Voulez, mais vous pouvez lire assis, hein, si vous voulez.
Pas sympa, aussi debout.
Vous préférez lire debout?
C'est vraiment c'est très simple. Je pensais, parce qu'elle a traduit extrêmement, j'aime bien la traduction. Alors je trouve c'est le moment de présenter ces pages et moi je lis quelques phrases en allemand pour entendre l'allemand, mais c'est vraiment plutôt le français. Et elle commence. Et oui, je pense que tu lis presque tout et moi quelques phrases en allemand.
Vous avez droit au tout début du roman. Une infirmière roumaine décrocha le combiné et le fit passer à la femme étendue sur la chaise longue. Celle-ci marmonna « Io dormo, io dormo ». L'homme qui avait deux yeux rit et dit « Depuis quand savez-vous l'italien ? C'est moi, vous entendez ? Vous ne dormez pas ? Vous êtes en train de me parler au téléphone. » Là-dessus, elle fut saisie d'une quinte de toux et il prit congé d'elle. « Io dormo » furent ses dernières paroles. Le soir même, elle était morte. Un jour auparavant, sa chatte de 21 ans aussi était morte. C'était cela que l'homme avait voulu lui annoncer, à vrai dire. La chatte était une jeune bête devenue sauvage lorsqu'elle l'avait recueillie et jusqu'au bout elle resta fluette et farouche. Elle avait des oreilles étonnamment grandes, presque transparentes. Et il ne lui arrivait que rarement de faire 2 ou 3 pas en direction des gens, tout à fait inopinément, pour ensuite s'en éloigner à nouveau sans trop se presser. L'homme qui avait deux yeux, elle l'avait totalement ignoré. Une fois seulement, elle s'était approchée de lui avec prudence, avait fait le tour de sa jambe droite en la frôlant, puis était repartie, la queue à la verticale. Impossible de reconstituer comment on en était arrivé là. Il en fut ravi en tout cas, et pensa avoir gagné sa faveur. Dans sa jeunesse, elle avait une truffe rose et délicate comme de la porcelaine. Parfois, elle oubliait de rentrer le bout de sa langue. On aurait pu décrire l'expression de son visage comme étant légèrement soucieuse. Toute sa vie durant, elle donna l'impression d'avoir à porter une lourde responsabilité. Quel sérieux! quel corps menu, quelle patte fraîche et douce. Quiconque n'aime pas les chats se court à la tête d'incompréhension en lisant ces lignes. Mais l'homme qui avait deux yeux ne pouvait pas s'en empêcher, il aimait les bêtes. Il se sentait quand il était près d'elle et à chaque fois, la joie d'être en vie s'embrasait brièvement en lui. Des chevaux, par exemple, il savait qu'ils dorment mal quand on les laisse seuls dehors la nuit. Les chevaux surveillent mutuellement leur sommeil. Savoir cela le rendait heureux.
Es ist am besten, das Boot nur dann auszuschöpfen, wenn es nötig ist. Das war die einzige Weisheit, welche die Frau, die im Liegestuhl verstorben war, bekannt hatte. Sie zitierte sie zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. So oft, bis schließlich auch der Mann mit den zwei Augen anfing, sie zu zitieren. Er hatte sich mit den Jahren an die Frau gewöhnt. Er liebte es, an ihrer linken Seite durch die Straßen zu gehen und ihre Hand zu halten. Dann fiel ihm aber meistens nichts zum Sagen ein. Wie der Frieden und das Glück hatten sie beide nicht allzu viele Worte und Geschichten zu ihrer Verfügung. Wenn sie den Satz mit dem Boot sagte, dachte er jeweils für sich, wie recht sie hat. Am besten ist es, das Boot nur dann auszuschöpfen, wenn es nötig ist.
Mieux vaut n'écoper le bateau que lorsqu'il le faut. C'était l'unique adage que connaissait la femme qui était décédée sur la chaise longue. Elle le citait à toutes les occasions, bonnes ou mauvaises, jusqu'à ce qu'au bout du compte, l'homme qui avait deux yeux se mette lui aussi à le citer. Avec les années, il s'était habitué à cette femme. Il aimait flâner dans les rues en marchant à sa gauche et en la tenant par la main. Mais alors, il ne trouvait généralement rien à lui dire. Tel le bonheur et la paix, ils n'avaient tous deux pas trop de mots et d'histoires à disposition. Quand elle disait la phrase du bateau, il pensait à chaque fois, comme elle a raison, mieux vaut n'écoper le bateau que lorsqu'il le faut. Elle était donc morte à présent. Elle avait quitté volontairement la ville, comme le dit la formule officielle. Il ne fit pas le vœu que la foudre divine s'abatte sur tous ceux qui lui avaient fait perdre le goût de vivre. La foudre était bien trop pure pour cela. Si elle s'abattait sur eux, elle en pesterait pour le restant de ses jours, la foudre. Parce qu'elle serait entrée en contact avec cette racaille de bâtards, avec ces roquets hargneux qui massacrent tout ce qui s'élève en rêve. Il ne savait pas très bien qui désignait les mots « racaille de bâtards ». Tout le monde, ma foi. Il ne savait même pas d'où il tenait ces mots. Les roquets hargneux aussi lui étaient inconnus. Ils lui traversèrent l'esprit sans aucun lien, après le premier moment d'hébétude qui avait suivi la nouvelle du décès, et assombrirent son cœur.
Die Katze lag in eine weiße Tischdecke eingewickelt, in der Küche auf dem Fußboden. Nachdem er die Frau am Telefon nicht hatte fragen können, was er mit dem Leichnam machen solle, schob er ihn in einen blauen Müllsack aus Plastik und trug ihn in den Keller, wo in der hintersten linken Ecke, solange er hier wohnte, eine rostige Kohlenschaufel an der Wand lehnte, die ein Vormieter dort hatte stehen lassen. Die Schaufel steckte er zur Katze in den Sack und ging dann damit in den nahegelegenen Stadtpark, einen kleinen Mischwald mit Lichtungen, Wegen, Grünflächen, Blumenbeeten, Kinderspiel- und Grillplätzen. Vormittags war dort meistens niemand unterwegs, außer in den Schulferien im Hochsommer, die aber längst vorüber waren.
En bordure d'une pelouse, dans le sous-bois, il creusa un trou. La terre était sombre, humide et molle, il était facile d'y creuser, dans lequel il déposa la chatte enveloppée dans la nappe. Il reboucha le trou et poussa des feuilles mortes par-dessus. Puis il resta planté là, les bras ballants, et contempla le petit monticule. Doucement, il dit « Adieu, piti piti ». Il n'avait aucune idée d'où sortait ce piti piti. Il se demanda s'il y avait eu dans un film ou à la télévision un chat qui portait ce nom, mais ne s'en rappela aucun. Il secoua la tête comme si un moustique lui tournait autour, remit la pelle à charbon dans le sac en plastique bleu et s'en alla. Alors là, nous allons sauter quelques pages pour nous retrouver dans la cour de l'immeuble de l'homme qui avait deux yeux. Une fillette jouait avec son amie dans la cour de l'immeuble locatif où habitait l'homme qui avait deux yeux. La cour était un étroit carré d'asphalte avec une barre à battre les tapis rouillés au milieu. Le soleil, qui brillait depuis plusieurs jours, ce qui était inhabituel dans cette région à la fin de l'automne, ne tombait jamais de toute l'année jusque sur son sol. C'est pourquoi dans les coins, l'asphalte était constamment humide et recouvert d'une mousse vert foncé. Chaque fois que l'on ouvrait le portail donnant sur la rue et que quelqu'un entrait ou sortait, la cour s'illuminait brièvement et une vague d'air chaud déferlait à l'intérieur. Alors, les fillettes restaient immobiles et laissaient la vague baigner leurs jambes nues. L'une d'elles, elle s'appelait Philine, aurait bien aimé montrer à son amie Ulrich combien elle était connue dans l'immeuble et comme elle s'entendait bien avec ses habitants. C'est pourquoi elle défiait du regard tous ceux qui passaient, soulevait sa robe et faisait une révérence. Philine est un prénom rare, peut-être même que ce n'en est pas un, mais plutôt une invention. Ses parents en auraient été capables. Ils étaient doués pour les arts, habitaient au rez-de-chaussée et avaient aménagé leurs pièces de façon romantique. Lorsque Philine était venue au monde, une chambre d'enfant fraîchement préparée avec de petits meubles bleus l'attendait, ainsi qu'une tapisserie bleu ciel constellée de nuages moutons blancs. On avait pu le voir de la rue par les fenêtres. Ainsi donc, Philine défiait du regard tous ceux qui passaient, soulevait sa robe et faisait une révérence. À son grand regret, les locataires de l'immeuble ne reconnaissaient pas la fillette. Elle avait grandi vite. La dernière fois qu'ils l'avaient vue, elle était encore dans son landau. Ils lui jetaient des regards irrités, grimaçaient en esquissant un sourire figé et disaient « Bonjour vous deux, alors ?» C'est tout ce qu'ils trouvaient à dire. Ils poursuivaient leur chemin d'un pas incertain, hésitaient, se demandaient ce qu'ils auraient bien pu dire de plus, regardaient en arrière, puis se dirigeaient fermement vers la sortie et quittaient l'immeuble. Ou alors, ils montaient l'escalier et disparaissaient rapidement dans leur appartement. Philine était déçue. Elle aurait trop aimé montrer à Ulrich sur quel fondement solide elle se mouvait ici. Enfin, l'un des habitants qui rentrait chez eux lui demanda, après qu'elle eut fait sa petite révérence, « Tu sais danser ?» Il avait deux yeux, avec lesquels il vous regardait, comme ça. C'était tout ce dont Philine parvenait à se souvenir plus tard, quand on l'interrogeait à son sujet. Elle répondit « Je vais au cours de danse et je sais faire une révérence pour saluer. » L'homme qui avait deux yeux ne comprenait pas ce qu'elle entendait par là. D'après lui, elle était trop petite pour son âge, et si frêle que c'en était troublant. Trop petite pour son âge, c'est une façon de parler. L'homme ne savait pas quel âge elle avait, mais il la trouvait clairement trop petite pour cela. De la cave s'échappait en rampant de l'air glacial qui venait effleurer leurs jambes. La peau se contractait et devenait granuleuse. « Regarde ta peau, on dirait du papier de verre. On pourrait polir tout un banc d'église avec ces jambes-là. » Philine regarda l'homme, puis ses jambes nues, puis elle s'enfuit en courant dans l'entrée sombre de l'immeuble avec Ulrike à sa suite. Dans l'entrée, elles firent toutes les deux des pliés. L'homme cligna des yeux et les suivit du regard. Il paraissait épuisé. Dans son dos, un nerf était coincé. Il ne pouvait tourner la tête plus qu'à droite. En plus, il avait faim. Moi aussi, j'aimerais bien une fois encore sautiller comme jadis, se dit-il en rejoignant les deux fillettes dans l'entrée sombre. Il leur demanda : Vous croyez que j'y arriverais aussi à faire ce que vous faites ? Non, dit Philine. Ma mère entend tout par la fenêtre ouverte. Si je l'appelle, elle viendra tout de suite. Dans l'appartement, il fait trop froid pour jouer. C'est pour ça qu'on est dehors dans la cour. Hier, j'ai dansé devant des gens. À la fin, j'ai levé les mains au-dessus de ma tête et après, j'ai fait la révérence comme ça. Elle mima ce qu'elle avait raconté.
Dass dies keine Geschichte war, wussten alle drei sehr genau. Aber so fangen sie an, die Geschichten, und plötzlich steckt man mittendrin in einer und Blut fließt oder weiße Kleidchen sind zerrissen. Er verdiente sein Geld als Gerichtsreporter und kannte das. Philine hatte dünnes Haar, riesige Augen und zu große Ohren. Sie besaß einen Hamster, der Motte hieß. Motte oder Mottel oder so ähnlich. Der Mann sagte, sie solle ihre Mutter um einen zweiten Hamster bitten, weil der eine allein sonst traurig wäre und sterbe. Dann stieg er die Treppe zu seiner Wohnung hinauf, nicht ohne zum Abschied gesagt zu haben, das ist schön, wie du tanzt. Was für mehlige, schlanke Beine. Wonach er sich räusperte, weil ihm seine Stimme belegt vorkam. Ulrike schaute und hörte den beiden stumm zu. Sie wird sich daran gewöhnen müssen, nicht beachtet zu werden neben Philine, dachte der Mann, während er die Treppe hinaufstieg. Es ist angenehm, nicht beachtet zu werden. Man kann sich dabei ausruhen und träge werden wie Teig. Philine hingegen wird in ihrem Leben kaum jemals träge werden können wie Teig. Sie wird weiter tanzen und weiter tanzen, immer im Zentrum des Interesses und bald wird sie zu Tode erschöpft sein davon. Dann kommt die eisige Kälte aus dem Keller gekrochen und setzt sich auf sie drauf.
Que cela ne constituait pas une histoire, ils le savaient très bien, tous les trois. Mais c'est ainsi qu'elles commencent, les histoires. Et soudain, en se retrouvant plein dedans, elle s'en coule où de petites robes blanches sont déchirées. Il gagnait sa vie comme chroniqueur judiciaire et il connaissait cela. Philine avait des cheveux fins, des yeux immenses et des oreilles trop grandes. Elle possédait un hamster qui s'appelait Pelote, Pelote ou Boulotte ou quelque chose comme ça. L'homme lui dit qu'il fallait qu'elle demande un deuxième hamster à sa mère parce que s'il restait seul, le sien allait sombrer dans la tristesse et mourir. Puis il monta l'escalier jusqu'à son appartement, non sans avoir dit auparavant, en guise d'adieu, « C'est joli comme tu danses. Quelles jambes minces et blanches. » Après quoi il se racla la gorge parce que sa voix lui semblait enrouée. Ulrike les regarda et les écouta sans mot dire. Il va falloir qu'elle s'habitue à ne pas être remarquée à côté de Philine, se dit l'homme tandis qu'il montait l'escalier. C'est agréable de ne pas être remarquée. On peut se reposer pendant ce temps et devenir mou comme de la pâte. Philine, en revanche, n'aura guère l'occasion dans sa vie de devenir molle comme de la pâte. Elle va danser et danser encore, toujours au centre de l'attention, et bientôt elle sera exténuée par tout cela. Alors, le froid glacial s'échappera de la cave en rampant et se posera sur elle.
à Patricia et à Mathias Choquet pour cette lecture. Maintenant, tout le monde va venir ici. Arnaud, Camille, sont partis. Catherine,
quelqu'un veut de l'eau ?
Alors, c'est difficile de se faire une idée précise des trois livres. Et de leur parenté et de leur différence. Après cette lecture, on peut quand même s'en faire une idée. Surtout, la façon de lire d'Arnaud, c'est vrai, transforme beaucoup le texte écrit en une sorte de chanson, de liturgie, de mélopée, je ne sais pas, mais je me demandais, c'est quand vous parlez, Arnaud, quand vous parlez allemand, suisse-allemand, romanche, est-ce que vous parlez comme ça ou c'est un ton particulier pour la lecture ?
Quand je parle comme je parle et comme je lis aussi. De cette façon que je suis à l'aise, non ? Je lis comme je parle.
Il n'y a pas autre façon, non ? En détail encore.
Oui, je crois que le rythme est profond. Le rythme est profond.
Ouais, Camille, qui a fait le travail de traduction, je pense qu'on le sent ce rythme, cette pulsation, en traduisant.
Oui, absolument, c'est un texte très rythmé. J'ai souvent lu à haute voix en traduisant aussi. Je pense qu'Arnaud n'a pas besoin de lire à haute voix quand il écrit, parce qu'il entend tout tellement fort en lui. Je ne sais pas, tu lis à haute voix des fois quand tu écris ?
Le premier livre, j'ai encore lu à haute voix, mais... À partir de là, j'ai commencé à écrire avec des casques. On dit casque.
Un casque.
Un casque, c'est un
helm.
Les écouteurs, oui. Parce que 100 mètres, ça veut dire que tout est très silencieux. Et voilà, j'ai mes caractères. Et je dis, tu me racontes ça, et toi, tu n'es pas d'accord. Et il commence à tourner. Et le point est peut-être qu'il s'arrête le soir. C'est plus difficile, ça.
Encore juste une question là, sur cette question de la langue. Le prix, il vous a été donné au titre d'un auteur de langue allemande. Hein? Mathias, Thilo Krause, Irina Breschna, vous, c'est des auteurs de langue allemande. Mais il y a beaucoup... d'autres langues dans le livre qui circulent. Vous considérez comme un auteur, quelle est votre langue en fait, de base?
Oui, parfois les gens disent, ils mélangent les langues ou des choses comme ça et que je n'aime pas, parce que moi, ou j'écris en allemand ou j'écris en romanche. Et si j'écris en allemand comme ce livre-là, ça veut dire que je travaille avec des tonalités des autres langues, je prends un son ici, un mot là et un ici, mais je reste dans l'allemand. Ouais.
C'est un travail de trouver des équivalents pour tous ces mots qui sont appelés à l'intérieur. Vous ne pouvez pas les réutiliser tels quels.
Non. Quoique certains, si. Hein. Quand il y a...
Mamma mia, bon.
Mamma mia, voilà. Mamma mia, il est aussi... On le comprend même en français. Autrement, c'est le travail sur derrière la gare surtout, hein, parce que sur Ustrinkata, la question se pose de manière différente. Sur derrière la gare, la question c'était ces touches justement, ces touches de romanche dans l'allemand qui a un sens en allemand, qui en a un autre peut-être, j'espère, en français. Mais qui, évidemment, c'est un déplacement, la traduction, qui déplace ce rapport entre les langues. Alors j'ai essayé de recréer quelque chose qui fonctionne par rapport à ce que fait Arnaud dans son livre.
Parce que vous reviendrez peut-être sur cette question de la traduction, mais en lisant L'homme qui avait deux yeux, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée, je pense qu'elle concerne tout le monde. À un moment... Le narrateur dit, cette histoire ne voulait pas qu'on la raconte plus avant. Donc, elle reste en plan, cette histoire. Je voulais savoir jusqu'à quel point les histoires que vous racontez sont autonomes, sont d'accord d'être racontées ou pas, veulent être racontées ou pas. Mathias, quand cette phrase, vous vous en souvenez?
Non.
Je la vois encore. Patricia, peut-être? C'est en haut d'une page et il dit, voilà, cette histoire ne voulait pas être racontée plus loin. Mais alors, peu importe que vous en souveniez ou pas, mais est-ce que les histoires, à un moment, est-ce qu'il y a des histoires qui sont d'accord ou pas d'accord d'être racontées? Quelqu'un a quelque chose à dire? Mathias, quand même.
Non, c'est vraiment très une question philosophique très très profonde, je pense. On devrait parler des heures de ça, parce que je me souviens bien sûr. Et c'est, chez moi, c'est plutôt une idée principale dans toutes les histoires. Je trouve toujours que, mais qu'est-ce que je raconte ici? Qu'est-ce qui veut entendre ça? Et pourquoi je vous raconte une histoire? C'est, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes et plus intéressantes, et laissons passer ça, sauter à une autre histoire, et en train de la raconter, je trouve, mais c'est seulement une histoire, et une histoire, c'est pas ce que je veux faire dans le livre. Et je pense que c'est la même chose. Les auteurs, beaucoup d'auteurs ont ce problème, qu'ils sont que de raconteurs, de bavardeurs, et ils n'aiment pas être ça. Ils voulaient, je pense on aimerait man möchte da durchdringen und an einen Punkt kommen, wo es um mehr geht, also um eine Geschichte. Eben, weil die Geschichten sind manchmal sehr schön, sehr schöne Geschichten, runde Geschichten, wo man möchte, wie ging es weiter und was ging dann so. Und plötzlich denkt man, was mache ich? Ich bin ja kein Kindermädchen, ich erzähle doch den Leuten nicht Geschichten, damit sie schlafen können. Je pense elle peut raconter beaucoup de ça aussi, de parler de cette question, sur cette question.
C'est vrai, vos trois livres, en général, vos livres sont composés d'éléments minuscules, qui pour nous parfois font miroir ou qui, mais dont on se dit c'est vrai, pourquoi celui-là, comment choisir celui-là. Catherine, vous parlez du carnet de notes que vous n'avez pas ouvert. Mm-hmm. Donc c'est ça qui, la question qui se pose, comment est-ce que ces éléments se sortent du quotidien, sont pris, agencés et font un livre. Est-ce qu'il y a des histoires qui veulent être racontées ou pas?
Écoutez, je crois que j'essaie d'écrire ce que je ne peux pas raconter. J'essaie d'écrire seulement ça. Et que j'appelle chercher la vérité. Mais c'est une formule. Je sais comment certaines visions ou certains moments, certains souvenirs, récents ou anciens, insistent pour être dits. Et pas question. Il y a une résistance. Bon, on appelle ça couramment le. Il y a un tabou sur quelque chose, ou bien on va blesser quelqu'un. C'est une vieille histoire. On va ennuyer quelqu'un. Je ne tiens pas à ennuyer personne. Donc on se range malaisément, on se case, on se catégorise, on se diminue, ou alors on explose et on devient vulgaire. La vulgarité est assez difficile. J'entends par exemple tout à l'heure votre très beau langage que je simplifie. Je dis langage populaire. Non, c'est une musique qui m'a fait comprendre l'allemand de deux façons, la vôtre aussi très différemment. L'allemand est une langue qui doit se prononcer vraiment. Il faut la bouche. Faut la bouche aussi. J'ai perdu le fil là. Par exemple, j'ai entendu ce que vous écrivez comme profondément populaire. Je m'excuse de la simplification du mot, et pas du tout vulgaire, pas du tout, du tout. Même si j'ai l'impression que dans les insultes de Marina, j'ai l'impression que vous avez sauté porca miseria dans la traduction.
Ah non, c'est la nonna qui dit porca miseria.
Ah d'accord. Ah bon. que ça m'était depuis hier soir, ça m'était. Bon, je me suis trompée. C'était pour faire l'intéressante. Hein. bon, alors voilà, je résume. Ce que j'aimerais écrire, c'est ce que j'ai pas le droit d'écrire. Excusez-moi. Et comme je ne peux pas inventer d'histoire, je l'ai dit, faire de la fiction véritable, pure ou authentique, je n'y arrive pas. Généralement, ça me reconduit toujours vers un secret. Voilà, un secret. Le secret, le voyage, ou bien comment on aime quelqu'un, ou bien comment on l'aime plus. C'est là-dessus que j'écris. Et le secret, ça ne se dit pas. Ou ça se dit à une personne, c'est déjà beaucoup trop.
Oui.
Juste par rapport à cette question justement de raconter des histoires, parce qu'en fait, je me disais, j'ai l'impression que dans les textes d'Arnaud Kamenich, il y a la langue, en fait, et ces tonalités, cette musique, ce rythme de la langue s'impose pour raconter les histoires. J'ai pas l'impression que tu choisis ou que c'est un travail d'orfèvre, de choisir des mots, de choisir une tonalité. Bien sûr, tu travailles beaucoup tes textes, mais c'est la précision des images qui apparaissent à travers cette langue et son rythme, sa musique. Que c'est les images avant tout qui guident, en fait, qui déterminent les mots que tu vas utiliser. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je dis.
Je comprends. Je ne sais pas quoi dire. Je dois répondre.
Non, je ne sais pas.
Non, je ne vais pas répondre. Mais pour rire.
Oh, je peux. Mais...
Ben, est-ce que...
Je crois.
Oui. Alors.
Oui, je crois la façon de qu'on raconte quelque chose est très importante. On connecte avec ce qu'on raconte. Ça veut dire pas seulement ce qu'on raconte, mais aussi la façon de ce qu'on raconte.
Valable comme réponse.
Oui, tout à fait valable.
Oui,
mais justement, vous lisez les trois livres, ils ont l'air... Arnaud, je t'avoue que je parle. Les trois livres ont l'air d'être faits de bribes de choses qui ont été vues. Alors, Derrière la gare, c'est très fort parce que c'est comme des souvenirs d'enfance. Cesner, c'est la vision d'un alpage pendant un été, la vie des vachers, leurs histoires, leurs problèmes. Oustrinkata, c'est cette dernière soirée dans ce bistrot, ce lieu clos où on a tout un microcosme. Est-ce que c'est des choses vues, des choses notées, et puis après reconstruites?
Oui, il y a beaucoup de gens, je crois, qui pensent que derrière la gare sera mon enfance. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des emails et disent « C'est comme chez nous, je crois, derrière la gare, c'est votre enfance. » Et la sienne, et la vôtre, et la mienne, d'une façon. La surréalité qui existe à la fin, la réalité du texte. Parfois, les gens me demandent « C'est votre enfance ?» Non, c'est vraiment pas la mienne. J'ai une totale différence, mais il y a des moments qui sont pris de ça. Je crois que si j'écris, je prends des moments qui sont... que j'ai vécu, des moments que j'ai entendus, et une partie est fantaisie, et on développe ça à littérature. Et c'est ça la question, comment développer ça à littérature.
J'ai pensé quelque chose d'analogue. Enfin, quand on lit plusieurs de vos livres, Mathias, qu'on lit Libanils, qu'on lit Circulation, qu'on lit L'homme... ou Maurice, ou L'homme qui avait deux yeux, on retrouve des éléments. Après, ils sont déplacés, construits autrement, recyclés. Est-ce qu'on peut dire comment se fait ce travail de reconstruction et de construction? Et pourquoi il y en a un qui doit porter le genre roman, et puis l'autre, bon, c'est des mails, un journal, est-ce que c'est un travail... Est-ce que vous voyez ce qui va pouvoir être réutilisé ou revenir? Comment se fait ce travail? Une grosse question de nouveau.
Oui, c'est vraiment... Je ne peux pas répondre. Une chose est que sur des livres, on écrit roman parce qu'on pense qu'on peut vendre mieux. Un roman, c'est tout simple. Et pour moi, je pense que, dans, par exemple, dans le dernier, c'est beaucoup plus élaboré et tous les choses privées, vraiment privées, qu'on voit tout de suite, c'est moi qui va à Berlin à gauche. Ces choses-là sont transformées. C'est un travail, parce que je remarque, mais c'est trop simple. Ce n'est pas seulement moi, je vais à gauche, à Kudam. C'est un homme va à gauche sur une grande rue. Et comment, sans que c'est... Ich sag's mal auf Deutsch, da kannst du übersetzen. Ohne dass man das als einen furchtbaren Krampf empfindet als Leser, dass ich jetzt mehr bedeuten will, dass das Buch mehr bedeuten will oder der Satz will mehr bedeuten, dass die Arbeit, das immer wieder runterzufiltern und wieder auszudünnen, bis das wirklich ein Satz ist, der ein bisschen breiter und gültiger vielleicht ist als ganz im Ich gehe links über den Kudamm, sondern ein Mann geht über eine große Straße links, ohne dass es ein beliebiger Satz ist, sondern dass er sehr präzise wird. Und das versuche ich immer wieder bei jedem neuen Buch auf eine andere Weise von mir auszugehen. Also bei mir, meine Bücher sind alle sehr autobiografisch, wahrscheinlich nehme ich an, dass man das empfindet so. Aber das ist immer wieder ein Versuch, von einer anderen Weise und in einer anderen Übersetzung dieses Ich so darzustellen, dass der Leser nach einer Seite schon vergessen hat, dass das Ich bin, sondern dass der Leser denkt, das ist irgendwie noch interessant, das könnte auch ich, der Leser, sein. Und dass, wenn ich sehr lange arbeite, dann ist es vielleicht dann eben, nenne ich es Roman, weil es dann sehr durchgefiltert ist. Und beim Lieber Nils ist es ganz sichtbar und also mit Willen nicht ein Roman, da wollte ich nicht, sondern ich glaube, dass das einer ist, aber das kann ich niemandem erklären, weil das glaubt mir dann keiner, weil das ist wirklich...
Ça va aller? Vous avez compris?
Ich glaube, Sie haben es verstanden, ja.
Parce qu'il fait toujours des très longues prises de parole avec beaucoup de détours, c'est un promeneur dans l'âme. Non, je crois que ce qu'il disait, c'est que ces livres sont en bonne partie autobiographiques, effectivement, mais que j'entends, il y a quand même un travail qui se fait sur le texte et qui permet de mettre une certaine distance, d'abstraire en fait les choses après coup, ce qui fait que ça devient, c'est pas des textes laborieux ou collés à l'auteur, mais après ce sont vraiment des œuvres travaillées et puis qui ont une certaine distance. Alors ceux qu'il se permet de nommer romans sont ceux qu'il a beaucoup retravaillé. Mathias, tu me dis si je raconte des bêtises. Donc des textes qui ont été vraiment retravaillés sur le plan littéraire jusqu'à un certain point. Et à ce moment-là, ça devient vraiment une œuvre littéraire qu'il veut bien appeler roman. Voilà, j'ai certainement oublié la moitié, mais...
Vous avez peut-être des questions à poser, ou des remarques à faire ou quelque chose à dire. Oui, madame.
Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça s'adresse à monsieur Kamenich. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre texte pour le mélange de la langue. Parce que les brins de romanche, qui quelquefois c'est seulement la terminaison d'un mot, quelquefois c'est un mot, quelquefois c'est une petite phrase. Alors, j'ai des raisons particulières, je suis attachée à cette région par ma famille, et ça m'a fait plaisir d'entendre Kashtenk, etc. Mais alors, si on traduit ça en français, mais il n'en reste rien. Mais rien. C'est pour moi, c'est... Pardonnez-moi, alors j'ai la traductrice. Mais c'est tout à fait clair qu'on ne peut pas traduire ça en français. Alors, est-ce que... Oui, une des qualités, des grandes qualités poétiques de votre texte, Pour moi, ça se perd. On dit que c'est traduit en 15 ans.
Voilà. Ce que je dis toujours au commencement est raconter une histoire. C'est le premier. Et le second point est qu'on travaille avec des couleurs. Par exemple, du langage parlé. Et parfois, il ne cite pas beaucoup pour y mettre un peu de couleur. C'est ça. Mais le commencement, raconter l'histoire. C'est ça, ce qu'on veut dire.
Comment vous traduisez Krashtag?
Alors, en l'occurrence, Kashtenk, c'est... Tu penses bien, c'est... Tu penses, penses-tu, penses-tu, penses-tu. Mais je ne sais pas si je veux répondre à... Enfin, on ne va pas entrer dans les détails de la traduction maintenant.
Je trouve très joli ce que vous dites par rapport à la couleur. Que les langues ont des couleurs. Et un mot ne se remplace pas forcément par un autre mot, mais justement par une tonalité, par une couleur. Je trouve très très beau ce que vous dites.
Et peut-être que je... Moi, je crois que le plus difficile pour une traduction est justement ça, de trouver le ton. Quel est le ton? Et je crois que Camille fait ça très très bien. Elle touche exactement l'équilibre du ton. Par exemple, j'ai un petit événement avec le premier passage qu'on a lu de derrière la gare, c'était l'inventoriage. On a fait un livre auditif avec l'original et j'ai lu comme 15 fois ce passage parce que je ne trouvais pas le ton. Juste que j'ai réalisé, quand je lis, je dois voir les images dans la tête et je dois regarder les maisons d'en bas en haut. Et voilà, je trouve le ton. Der Ton, oui, c'est ça, la traduction, je crois.
Encore une
question, monsieur Tchouk, et la fin, est-ce que c'est vous qui avez composé ces vers ou est-ce qu'il faut les chercher? Je les cherche, je n'ai rien trouvé.
C'était mon livre, vous avez lu le livre. Non, ça existe, mais je ne c'est une traduction, c'est une traduction. Et ça, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de traductions différentes. Et c'est pour ça que je ne raconte pas où on le trouve, mais ça existe.
Ah, c'est l'original n'est pas en allemand?
Non.
Ah, bon, c'est pour ça que
je n'ai
pas trouvé.
C'est quelle phrase où...
Parce qu'il y a un poème à la fin. Un morse de poème.
C'est
très compliqué, on pourrait faire une dissertation sur ça.
À la toute fin.
C'est là, c'est ja fast ein Kinderfers, also sehr einfach.
C'est vraiment la dernière phrase. Parce que j'étais la chercher ce matin sur Google. À partir de l'allemand, je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis dit.
On n'a pas l'auteur, est-ce qu'on peut avoir au moins la langue originale?
Non, je peux vous dire, c'était le grand russe Pushkin, la grande histoire triste, peut-être le gros Pushkin, das Fersen. Das Fersen, das ist nicht das Ende von Eugen Onegin, es steht irgendwo im Eugen Onegin gegen Ende.
Ist das nicht das Brot? C'est pas la mort? De la mort?
Non, c'est.
Au moins, moi,
je parle des conflits. Ja, das ist aber dann schon sehr große Interpretation, was ich da gemacht habe.
On va peut-être la lire, parce que ça intrigue tout le monde là maintenant.
Tu l'as vu?
Oui. Also, c'est la fin d'un livre, comme citation. Genug sind wir durchs Ehrental mit ihm gewandert und wir melden am Ende glücklich, wir sind da, es ist geschafft, hurra, hurra. Man ist mit einem Romanhelden durchs Leben gewandert und wir sind jetzt endlich, das ist jetzt am Ende und es ist geschafft, hurra, hurra.
Encore une question?
Non, je suis éblouie. Je ne vois pas bien.
S'il n'y a pas d'autres questions, je veux bien en poser une. Je n'ai pas très bien compris dans la langue de Arnaud Carmeli, si les mots qu'il utilisait hors roman, c'était des mots qu'il inventait lui-même, ou bien si c'était des mots qui étaient extraits des autres langues.
Oui, parfois, il y a un mot qui est du roman, et parfois, j'invente. Il y a, par exemple, pour terminer, peut-être... Vous m'avez demandé avant, c'est quoi un quintin? Un quintin, c'est ce que le Louise boit dans Oustrinket. Et il y a une belle histoire avec ça. Il y avait un journaliste de l'Allemagne qui voulait savoir ce que c'était. Elle a regardé tous les livres. On ne trouve pas ça dans les livres. Il a pensé, ah bon, je vais appeler les gens dans les grisons, je vais appeler dans les bistrots, demander ça. Il appelait et tout, les gens qui travaillaient là étaient de l'extérieur, so, ils ne savaient pas. Et à la fin, il appelait au journal, à quoi, et ils ont savu ça. Mais à Quintin, par exemple, c'est die Quinte, von einem Liter, ein Zweierli. Comment est-ce qu'on dit à Genève?
À demi.
À deux décis. À deux décis ou à demi, c'est une différence. Oui. En tout cas, c'est ça qu'on va voir après.
On va donc considérer que c'est le mot de la fin, qu'on va se retrouver autour d'un quintin. Et c'est peut-être aussi la dernière soirée. Ici. Vous trouverez les livres en bas et je vous remercie de votre attention et je remercie tous nos invités et porteurs de prix. Je vous souhaite encore une très bonne soirée.